Bienvenue dans Compassion. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous faire écouter une personne avec qui je m'entends très bien, bien qu'on soit loin d'être toujours sur la même longueur d'onde. En fait, en enregistrant ce second épisode, j'ai compris que mon podcast se construirait toujours autour de la personne interrogée, que son ton s'adapterait à sa personnalité, et je crois que j'aime encore plus cette idée. Avec le prochain témoignant, on a échangé sur de nombreux sujets. La vie dans un fauteuil roulant, le regard des autres, l'accès à l'éducation et au travail, mais aussi la pratique sportive. Enfin, le foot-fauteuil plus exactement. Une après-midi, alors qu'il était tranquillement en train de se balader sur son feed Instagram, il a reçu un message d'une personne avec qui il n'avait encore presque jamais échangé. Elle disait « Mais tu peux baiser ou pas du tout ?» Alors on a aussi discuté des relations amoureuses, et puis des abus qu'on subit encore trop souvent quand on est vulnérable physiquement.
Je regardais droit dans les yeux, je lui ai dit, écoute-moi bien toi, c'est la dernière fois que je te vois. Je fallait tout raconter ce que je savais sur lui. Et le lendemain, il y avait les flics qui étaient en garde à vue. Un matin, mon père il m'a posé dans la voiture, il m'a sorti de la voiture et en fait, je suis tombé quoi, que je tenais plus debout. J'étais dans un lycée, dans un collège où il y avait beaucoup d'handicapés. Et quand après tu te balades dans la rue, tu sors de cet établissement, en fait, tu te rends compte que rien n'est adapté, que les gens ils te regardent dans la rue bizarrement, tu comprends pas pourquoi, alors que là-bas, t'étais comme tout le monde.
On a parfois abordé des notions qui peuvent être un peu floues. Les duodés, ce sont des journées de sensibilisation organisées par l'État. Le principe, c'est de permettre à une personne en situation de handicap de suivre un professionnel au sein de sa structure pendant 2 jours. L'obligation d'embauche des 6%, c'est la loi qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher un quota de 6% de personnes handicapées. Et enfin, l'ARCOM, ancien CSA, c'est l'entité de régulation des médias français. Je vous ajoute évidemment des définitions plus complètes en bio de cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans un premier temps, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Bien sûr. Donc j'ai 20 ans, je fais une troisième année de communication sur Paris et je suis en ce moment en stage. Et voilà, du coup, j'ai une amyotrophie spinale de type 3, donc c'est une maladie... qui va abîmer la liaison entre les muscles et mon cerveau pour faire simple. Et donc, au fur et à mesure du temps, les muscles vont se rétrécir puisqu'ils ne seront plus connectés entre eux. Donc, c'est une maladie qui est génétique, neuromusculaire, évolutive.
Ok, donc j'allais te demander de parler justement de ton handicap. Tu l'as fait. Tu peux peut-être m'expliquer comment ça se traduit dans ton quotidien ?
Du coup, je suis en fauteuil roulant électrique. J'ai marché jusqu'à mes 10 ans. À 10 ans, j'ai perdu la marche. Donc avant mes 10 ans, je marchais, mais avec des difficultés, on peut dire. Donc en gros, j'étais fatigable, je ne pouvais pas faire un 100 mètres, je ne pouvais pas faire de marathon. Et donc en CM2, il y a le fauteuil qui a commencé à arriver parce que genre, je sentais que j'étais beaucoup plus fatigué. Et limite, du jour au lendemain, en une semaine, je ne me rappelle pas, c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Volontairement, j'essaie d'oublier par mon cerveau. Mais en gros, un matin, mon père il m'a posé dans la voiture, il m'a sorti de la voiture et en fait, je suis tombé, quoi, que je tenais plus debout. Et au début, c'était dur. Même si je ne le manifestais pas de cette manière-là, je le manifestais d'une autre manière, un peu dans la haine envers les autres. Je suis allé voir une psy pendant 5 mois. Et I'm coming, bitches. Et depuis 3 ans, je fais un traitement à l'hôpital de Garches qui permet de stopper l'évolution de ma maladie et surtout de récupérer un petit peu de force de ce que j'avais avant. Donc quand je dis de la force, je ne vais pas remarcher du jour au lendemain. Mais en gros, ça permet d'avoir plus de tonicité au niveau de mes bras, plus de facilité pour m'habiller, pour me doucher, pour faire mes pattes à mon appart, etc. Donc voilà, ça fait partie de ma vie, c'est moi. Je ne marche plus depuis mes 10 ans.
T'as témoigné sur Compassion ?
Yes.
Au début de l'ouverture du compte, il me semble que ça devait être 1 ou 2 mois après.
C'était il y a très longtemps.
C'était il y a assez longtemps, ouais. Et est-ce que tu peux me repartager ta phrase ici et me raconter un peu le contexte ?
Je crois que c'était en lien avec le message d'une fille que j'avais reçue sur les réseaux, je crois. En gros, on parlait, elle m'avait contacté, machin, on parlait. Et au bout de 2 minutes de discussion, on m'a posé des questions sur ma sexualité, comment je faisais pour le faire, quoi. Un truc du style, mais tu peux baiser ou pas du tout ? Et voilà, et sur le moment, je savais pas trop quoi faire. Je crois que j'avais même pas répondu, que je t'avais déjà envoyé le message, j'avais fait un screen. Et voilà, je suis OK meuf, thank you, goodbye. Et ouais, non, je crois que j'avais pas répondu. C'était gênant un peu, parce que enfin moi je me vois pas poser cette question-là au bout de 5 minutes de discussion. On peut en parler dans une discussion, au cours d'une amitié, au cours d'une relation, machin, oui. Mais pas au bout de 5 minutes, tu rencontres une personne, tu la connais pas. Encore plus sur les réseaux. Enfin, peut-être sur les réseaux, ça permet d'avoir moins de gêne et de frein. Mais en vrai, non, c'est gênant. Ça a gêné tout le monde.
Donc toi, sur les réseaux sociaux, tu affiches ton handicap ?
Ouais.
Directement sur tes photos ?
Ouais. Bon, on va en parler au cours de l'entretien, mais au début, j'étais dans un lycée, dans un collège, où il y avait beaucoup d'handicapés. Donc c'était... Enfin, je le montrais, mais pas plus que ça. Mais quand j'ai rencontré d'autres valides qui ne connaissaient pas le handicap, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions autour de ça, qu'il y avait beaucoup d'interrogations. Donc à partir de ce moment-là, j'ai senti le truc. Et je me suis dit, vas-y, on parle du handicap. Pour dédramatiser le handicap, le rendre banal. Non, en vrai, souvent, on me dit que j'ai beaucoup de courage, etc. Ça, je pense que beaucoup de gens handicapés ont eu ce genre de remarques. Pour eux, les valides, ils pensent que c'est... Enfin, certains valides pensent que ça nous fait plaisir d'entendre ça. Alors qu'en vrai... Du coup, après, tu sais plus la vérité, en fait. Quand on dit que t'es super, ça peut être super ce que t'as fait, parce que c'est vraiment super. Mais aussi, des fois, on dit que t'es super parce que t'es handicapé, en fait. Du coup, au bout d'un moment, tu sais plus ce qui est vraiment super ou pas. En fait, cette gêne-là, dans l'établissement où j'étais, elle n'y était pas, en fait, parce que c'était que des valides qui connaissaient le handicap ou des handicapés. Donc, on était dans un cocon, dans une prison dorée, comme je l'appelle. Et en fait, tu t'en rendais pas compte, t'étais vraiment déconnecté de la réalité. Et quand après, tu te balades dans la rue, tu sors de cet établissement, en fait, tu te rends compte que rien n'est adapté, que les gens te regardent dans la rue bizarrement, tu comprends pas pourquoi, alors que là-bas, t'étais comme tout le monde. J'ai fait toute ma scolarité du collège et du lycée là-bas, parce que donc j'ai perdu la marche en CM2. J'ai fait la fin de mon CM2 en fauteuil. Et en gros, le problème, c'était que dans ma ville de l'époque où j'habitais, dans le 95 à Cergy, il n'y avait aucun collège qui était adapté. Donc c'est là où on a commencé à parler à l'hôpital de Garches, ceux qui me suivaient. Ils nous ont dit, mais vous savez, il y a un établissement qui est super à 200 mètres d'ici, qui s'appelle le lycée Toulouse-Lautrec, à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Déjà, je pense que c'est aussi bien de rappeler le concept très rapidement, parce qu'un lycée comme ça, on en a nulle part en France, je pense. C'est des valides et des handicapés qui sont mélangés dans des classes très peu nombreuses. Et il y a aussi tout le côté centre de soins, kiné, etc., infirmerie, qui est directement dans l'établissement, compris dans le planning, dans l'emploi du temps. Donc c'est une bonne chose, parce que dans les établissements valides, je pense que c'est très compliqué de manier kiné, etc., en plus des cours. Et avec du recul maintenant, 10 ans après, je me dis que c'est un bon passage de ma vie, ça m'a permis d'accepter mon handicap, etc. Mais j'aurais peut-être dû partir un peu plus tôt de cet établissement. Non, parce qu'en fait, au début, tu rencontres d'autres personnes qui ont semblablement les mêmes histoires que toi, des mecs qui ont ton âge, qui ont marché aussi jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, jusqu'à machin, tu rencontres des personnes qui ont eu un accident, tout ça. Donc ça te permet d'en parler, d'avoir des potes aussi qui sont handicapés, qui te comprennent, parce que les valides, des fois, sur certains sujets, peuvent ne pas te comprendre, parce que c'est pas du tout le même vécu, etc. Donc ça, ouais, je dirais les 3-4 premières années, c'était important. J'ai fait mes premières rencontres amicales, amoureuses, etc. Je découvre la vie, et quand tu t'es forgé, de rester là-dedans, dans cette prison dorée, et de pas voir la réalité, c'est dur quand tu sors. Moi, j'ai une amie qui s'est retrouvée dans une université qui n'était pas adaptée, qui était en galère dès le premier jour de la rentrée parce que personne ne l'aidait, parce qu'elle avait peur d'aller demander de l'aide aux autres valides, alors qu'à Vaucresson, en fait, les valides, entre guillemets, venaient à toi directement, en fait, ils te sortaient ton sac, etc., sans que tu leur demandes quelque chose. Et dans la vraie vie, c'est pas ça.
Donc en fait, ça te rajoute une charge mentale énorme quand tu sors de cet endroit et que tu arrives dans un milieu ordinaire.
Mais oui, il y a tout un aspect un peu question-réponse au début. Je sais que si je réponds pas à ces questions, je vais être considéré juste comme l'handicapé de la classe et j'ai pas envie. Je préfère prendre du temps à répondre à ces questions, quitte à des fois qu'elles soient un peu mal formulées, machin. C'est des questions mais toutes bêtes. Comment tu fais pour aller à la douche? Comment tu fais le matin pour venir à l'école? Comment tu fais, je sais pas, pour faire pipi? Enfin, pour que des questions un peu bêtes.
Est-ce que tu as rencontré des problèmes d'accessibilité?
Non, parce que quand je suis sorti de cet établissement-là, donc post-Covid, après un bac réussi en contrôle continu, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui avait fréquenté mon école auparavant. Et du coup, voilà, je savais que globalement, tout était principalement bien adapté. J'avais aussi rencontré donc, les chefs d'établissement avant que j'intègre cette école. Et ils m'avaient rassuré sur plein de points. Donc j'étais forcément un peu stress, mais j'étais globalement serein. Je savais que j'allais pas me retrouver le premier jour de la rentrée et qu'il y avait 3 marches pour rentrer, je pourrais pas les passer, quoi. Enfin, je compare un peu, moi je suis dans une école privée, mais je pense que quand tu es dans une école publique avec Parcoursup, etc., ça peut être une grosse galère, parce que tu peux pas forcément rencontrer les chefs d'établissement avant, t'as tes résultats très tard dans l'année, donc ça doit avoir un stress de malade. Moi, mon école, je l'avais en février, en fait, et les autres, ils l'ont eu mais début juillet, donc ça doit être un stress de malade.
Bah du coup, quelles études t'as choisi ?
Du coup, je fais une école de communication. Je suis en troisième année sur Paris, dans le 9e arrondissement. Et donc c'est l'ISCOM, ça s'appelle. Et voilà, donc là en ce moment, je suis en stage depuis septembre jusqu'à fin janvier. Donc stage de plus de 4 mois. Et voilà. J'ai fait mon stage chez Havas, une agence de publicité qui appartient au groupe Canal+, à groupe Vivendi. Mais ça se passe très bien parce qu'en fait, j'avais fait mon stage là-bas l'année dernière. Ils m'avaient proposé, en plus de mon stage, de continuer en freelance pour eux, donc ce qui était très bien. Et ensuite, cette année, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux revenir chez nous ?» Je suis avec grand plaisir. Après, en toute honnêteté, j'ai pas vu un seul handicapé chez Havas à part moi, donc...
Ah bon ?
Je suis l'unique, le seul.
Près 80% des handicaps sont invisibles.
C'est vrai. Par contre, j'ai vu d'autres PMR au Duo Day.
Ah, le Duo Day. Bah, on en vient, justement, j'allais t'en parler.
Vas-y.
Alors, donc aujourd'hui, je suppose que tu es au courant un peu des chiffres. Le taux du chômage des personnes handicapées, il est presque 2 fois supérieur à celui des personnes valides.
Ouais.
2 sur 3 des personnes handicapées n'ont pas de travail. Et 1 sur 5 des entreprises concernées par l'obligation des 6% ne respectent pas ce chiffre. Mais il y a des initiatives qui sont mises en place et qui sont surmédiatisées, comme les Duo Day, pour favoriser l'inclusion et l'embauche des personnes handicapées. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Déjà, pour rappeler, les boîtes qui n'embauchent pas ces personnes handicapées payent des amendes. Ces amendes-là sont redirigées vers un nom que l'AGFIP, je crois. Et donc, ça permet de financer des adaptations pour les handicapés, eux qui travaillent. Concernant le Duo Day, ça reste pour moi globalement une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça permet de montrer qu'une personne handicapée peut travailler comme tout le monde. Et c'est ce que je disais sur le plateau de France de l'année dernière, c'est que le mieux, c'est quand ça se traduit par une offre d'emploi concrète derrière. Après, ce qu'il faut en tirer comme bénéfice, déjà ils l'ont allongé à 2 jours cette année, je crois. Pour moi, ça permet de se créer des contacts, d'entrer dans des milieux que d'habitude, tu n'aurais jamais pu atteindre. Moi, en fait, j'ai déjà fait plusieurs fois des Duo Day. Et à chaque fois, c'est les entreprises elles-mêmes qui m'ont contacté parce que c'était des médias. Il fallait en gros avoir une personne qui parlait bien à la caméra pour promouvoir le truc. Mais de ce que je me rappelle, il y a quand même des bons chiffres d'un point de vue de la participation, beaucoup de boîtes qui participent à ça. Et oui, ça reste globalement juste 2 jours dans l'année.
Mais est-ce que tu connais les chiffres de combien est-ce que de personnes qui participent à ces Duo Day obtiennent une proposition d'embauche ?
Très peu.
Ouais.
Mais il y a 2 ans, il y avait eu 20 000 audios qui avaient été faits, je crois, donc c'était quand même pas mal.
Et parmi ces 20 000, il n'y en a que 10% qui ont une proposition d'emploi. Et parmi ces 10%, on compte aussi les stages, les CDD. Ce ne sont pas forcément des emplois à durée indéterminée, quoi.
Pour moi, ça va au-delà du Duo Day, ce problème-là. C'est parce qu'en fait, je me positionne un peu des deux côtés. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour trouver un stage. Je touche du bois. Mais après, enfin là, par exemple, pour le Duo Day, justement, j'étais avec l'une des RH de l'agence pour laquelle je travaille et qui me disait, on a mis 20 000 offres d'emploi du Duo Day, mais aussi des offres d'emploi classiques. On a écrit en gros ouverte aux personnes handicapées, enfin vraiment plein de, comme beaucoup d'offres RH. Et en gros, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle trouve pas de personnes handicapées qui ont ces compétences-là, en fait. Donc pour moi, j'ai vu un peu la vision des deux côtés, côté RH qui cherche des handicapés pour travailler et côté handicapé qui cherche du travail. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes handicapées n'ont pas les qualifications nécessaires pour atteindre ces postes-là. Donc quand tu es handicapé, pour moi, tu dois, c'est pas une obligation, mais en fait, si tu veux du travail, etc., tu es obligé, limite, d'avoir vraiment des grandes qualifications pour atteindre ces postes-là. Parce que je pense que la plupart des Duo Day, on n'a pas les chiffres, mais c'est des personnes qui sont quasiment pas qualifiées, en fait, qui viennent un peu faire une journée découverte, comme un stage de troisième, et qui, en réalité, n'ont pas de compétences dans le domaine, quoi. Ils ont juste une appétence, mais pas de compétences.
Mais donc, si on pousse le problème un peu plus loin, c'est un peu ce dont on parlait précédemment, parce que je suppose qu'il y a nombreuses personnes handicapées qui pourraient faire des études supérieures et qui pourraient donc se former à ces postes-là, mais qui se retrouvent bloquées face à des problèmes d'accessibilité, d'inclusion, de manque de sensibilisation de la part des secteurs ordinaires.
De motivation parfois aussi.
De motivation, mais peut-être qu'il en faut 3 fois plus de la motivation finalement.
Ouais.
Les Duo Day, c'est quand même une initiative qui est surmédiatisée. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
C'est pour montrer les engagements RSE des entreprises. Ils veulent se montrer une bonne image autour de ça. Je préfère ça plutôt qu'ils n'en parlent pas du tout.
Je reviens juste sur un point parce que ça m'a un peu tiqué, mais tu dis handicapé.
Ouais.
Toi, tu dis pas personne handicapée, tu dis les handicapés.
Ouais, les petits PMR.
Les petits PMR.
Non, en vrai, sur ça, je suis pas un modèle parce que c'est vrai que des fois, dans ma manière de parler des personnes handicapées, des fois, je suis un peu dénigrant alors que je suis moi-même handicapé, je sais pas pourquoi.
Tu fais du sport.
Yes.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais ?
Je fais du foot fauteuil.
C'est du football adapté, enfin du football, une variante du football pour les personnes en fauteuil roulant. C'est du 4 contre 4 dans des terrains de basket classiques, dans des gymnases. Donc fauteuil électrique donc dédié à la discipline. Donc ils sont très bas, très rapides et très réactifs en rotation. C'est un sport qui est mixte, donc filles, garçons, peu importe. Pareil, il n'y a pas de limite d'âge. Donc tant que tu es bon, tu peux avoir 10 ans ou 50 ans, tu es sur le terrain si tu es bon. Et donc il y a 4 divisions en France, dont 3 qui sont nationales. Et il y a 10 équipes par division. Et nous, avec mon club de Vaucresson, on est en première division nationale. Et il y a des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, etc. Que ce soit avec les clubs ou avec les pays. Donc je fais ça depuis que je suis en 6e, donc ça fait presque 9 ans, je crois. Je fais un entraînement par semaine, tous les mardis soirs, pendant 3 heures. Et l'année dernière, j'ai eu 2 sélections en équipe de France. Parce que l'équipe de France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est championne du monde en titre depuis son sacre en 2017 aux USA. Ils ont battu les USA 4-2 en finale. Et donc là, après 2 reports dus au Covid, l'équipe de France va défendre son titre de champion du monde en octobre 2023 à Sydney en Australie. Donc moi, j'ai participé à deux fois à la préparation. Sur les derniers stages, je n'ai pas été appelé. Donc selon mes performances en club et si le sélectionneur veut bien de moi, peut-être que j'irai défendre les couleurs de l'équipe de France à Sydney en Australie. Quand tu es en fauteuil roulant électrique, donc avec des petits bras, on va dire, pas beaucoup de force, t'as pas beaucoup de sport collectif. T'as un autre sport qui s'appelle la boccia, qui est une catastrophe, c'est comme de la pétanque, c'est horrible. Et pour te donner une idée, il y a très peu de licenciés qui font de la boccia en France, hein, mais eux par contre, c'est un sport paralympique, ils sont payés pour faire ça, alors que nous on a 15 fois plus de licenciés, on n'est toujours pas paralympique, et on n'est même pas payé, on n'est rien du tout. C'est un peu technique, mais donc les comités paralympiques, donc le CIO je crois ça s'appelle, ils se réunissent tous les 4 ans pour déterminer les nouveaux sports qui vont arriver. Donc, comme pour les valides, hein, c'est exactement le même processus. Mais maintenant, c'est que le quota de sport maximum est atteint. Donc, en gros, s'ils veulent que le foot fauteuil rentre dans les Paralympiques, il faut en dégager un autre. Et pour l'instant, ils n'ont pas le courage de faire ça. Donc pour Paris 2024, c'est mort. Pour Los Angeles 2028, c'est mort aussi. Et pour l'édition encore d'après, peut-être.
Est-ce que tu penses que cette pratique, elle a joué un rôle dans ta vie personnelle et professionnelle ?
Ouais, beaucoup, parce qu'en fait, donc le foot fauteuil, ça marche un peu sur des week-ends plateaux. Donc en gros, tu as 5 week-ends dans l'année où tu vas jouer ton championnat donc dans toutes les villes de France, enfin dans tous les clubs de France. Donc en division 1, on va à Lille, on va en Bretagne à Lorient, on va dans le sud à Toulouse, on fait vraiment toute la France pour affronter plusieurs équipes. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais 14 ans, et que je voyais des gars de 30 ans jouer au foot fauteuil, et qui avaient des femmes, enfin une femme, des enfants, une maison, une voiture, etc. Ça me permettait de me projeter dans la vie et de voir que bah ouais, c'était possible en fait. Et donc il y a eu bien évidemment il y a tout l'aspect sportif que n'importe quel valide peut comprendre, un sport collectif de haut niveau, mais aussi de voir d'autres handicapés grands qui ont, comme j'ai dit, des voitures, des machins, ça aide à se projeter. Je dois tout à mon entraîneur. Mon entraîneur, c'est le meilleur, qui m'a fait confiance au tout début de ma vie, quand j'avais 10 ans. Donc ma nouvelle vie, on va dire, parce que j'étais en fauteuil. Donc c'est quelqu'un qui fréquente des personnes handicapées, des étudiants, enfin des jeunes handicapés depuis très longtemps. Donc il connaît un petit peu, enfin il sait comment ça se passe. C'est une personne qui m'a beaucoup apporté dans la vie. Je dis que souvent c'est un peu comme un frère, comme un deuxième papa. Et oui, il m'a permis à 11 ans de prendre confiance en moi, de trouver un épanouissement personnel qui est le foot fauteuil. C'est lui qui m'a amené en équipe de France aussi, c'est lui qui m'a fait progresser. Et c'est lui aussi qui m'a défendu face à des personnes dans des moments très compliqués, quand un prédateur sexuel abuse de jeunes handicapés. C'est lui qui m'a apporté son soutien, sans rentrer dans les détails parce que tous les aboutissants judiciaires ne sont pas terminés, on va dire. Mais oui, c'est des personnes qui abusaient de voir d'autres personnes de voir des personnes handicapées nues, de faire des choses entre elles, etc. Mais moi, en fait, c'est quand je voyais cette personne-là faire des choses, dans ma tête, c'était pas grave ce qu'elle faisait parce que je sais pas pourquoi. Enfin, je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je voyais pas le problème. Enfin, je voyais qu'il y avait un problème, mais pour moi, ça allait pas au-delà. J'allais pas aller appeler la police et leur raconter ça. Quand je voyais ça, oui, c'était bizarre, mais je voyais pas de souci. Je me dis, ça faisait partie du folklore. Et quand j'en parlais avec d'autres gens, je savais qu'ils faisaient ça depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années. Et je savais que c'était un peu. C'est normal en fait pour eux. Et moi aussi, j'avais assimilé ça. Pour moi, c'était normal. Jusqu'au jour où cette personne-là, une nuit, m'a énervé. Rien à voir avec l'histoire, mais il m'a vraiment énervé. Et je regardais droit dans les yeux. Je lui ai dit, écoute-moi bien, toi. C'est la dernière fois que je te vois. Du coup, le lendemain, je fallais tout raconter ce que je savais sur lui. Mon entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui est éducateur spécialisé. Donc en gros, je ne sais pas trop comment décrire ce métier-là, mais il accompagne, on va dire, socialement des personnes au cours de leur vie, donc là en l'occurrence des personnes handicapées. Et en fait, je pensais qu'il allait faire ça en interne. Et il m'a dit, mais là, en fait, c'est beaucoup trop grave pour que ça reste en interne entre nous. Je suis obligé d'en parler, mais pas d'en parler à ma collègue, je suis obligé d'en parler vraiment tout en haut de l'établissement pour qu'il y ait la justice qui prenne ça en main, parce qu'en fait, je ne peux pas gérer ça moi-même. C'est juste que ce n'est pas dans mes compétences, c'est vraiment trop grave pour que j'en parle. Et du coup, bah, c'est lui qui a fait toutes les démarches. Et c'est vrai que ça allait très vite. Et du coup, bah, j'étais pas du tout préparé à ça, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et le lendemain, il y avait les flics qui étaient en garde à vue. Et après, ouais, après un an plus tard, quand toute l'affaire est passée et quand les gens ont enfin compris que bah, c'était la vérité, ce qui s'était passé en fait, il y a d'autres affaires qui sont sorties qui ne sont pas en lien avec moi, mais ça a permis de libérer la parole à d'autres jeunes filles pour le coup, des très jeunes filles qui avaient 12 ans. Et donc c'est sorti, c'est moi qui ai tout endossé. Et surtout, je me rappelle, c'est quand la deuxième histoire est arrivée avec la fille en question de 12 ans, je leur ai dit, protégez-la, faites pas comme ce qui m'arrive à moi, parce que moi c'était très dur, mais j'avais 16-17 ans. Et là, elle a 12 ans, je ne sais pas si elle va résister à tout ça. Donc protégez-la, s'il vous plaît, dites pas que c'est elle, etc. Dites pas son prénom. Moi, deux jours après, tout le monde savait que c'était moi. Et personne n'a su que c'était elle, donc tant mieux pour elle. Mais ouais, il fallait la protéger, sinon, laisse tomber.
En fait, il n'y a pas très longtemps, donc, je suis allée à la manifestation Nous Toutes pour les violences faites aux femmes. Ça m'a amenée à faire des recherches en fait, sur les chiffres, sur les violences des femmes handicapées. J'ai vu qu'il y avait 4 femmes sur 5 handicapées qui subissaient des violences, pas que des violences sexuelles. Mais bon, c'est quand même un chiffre qui est alarmant.
Ouais.
Ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de chiffre concernant les hommes handicapés. Alors que quand on est en situation de handicap, on est considéré comme une personne vulnérable.
Ouais.
Et potentiellement, on a plus de chances d'être victime de ce type d'agression.
Du coup, juridiquement, c'est aussi plus grave pour la personne qui agresse puisque tu es vulnérable.
Est-ce que c'est dans l'établissement que tu as fréquenté pour personnes handicapées que tout ça s'est passé ?
Yes. Et aujourd'hui, il y a eu un très grand ménage dans cet établissement-là. Et tous les gens concernés ne sont plus là. J'ai eu la chance d'avoir le soutien du chef d'établissement qui, dès le début, m'a fait confiance, qui lui aussi a porté plainte contre ces personnes-là pour juridiquement avoir un poids supplémentaire. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'en suis fier. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était compliqué parce que quand tu te retrouves du lundi matin, vendredi soir, 24 heures sur 24, face à des personnes qui te mettent des coups de pression, etc., c'est dur. Mais seul contre tous... Aujourd'hui, on est plus fort. Aujourd'hui, ces gens-là, on les embrasse, ils sont en prison.
Et si on parlait un peu de ta vie sentimentale et sexuelle ?
Yes.
Étant donné que ta citation, en plus, traite de la question.
En effet.
Est-ce que tu estimes que ton handicap influe sur ta vie sentimentale et sexuelle ? Et si oui, comment ?
Oui, je pense. Parce que globalement, dans la société, les gens s'imaginent, je pense, être amis avec une personne handicapée, être pote, etc., sortir avec d'un point de vue, faire des soirées avec. Mais je pense que encore la barrière du handicap est encore trop importante pour qu'une personne valide s'imagine en couple, s'imagine avoir des relations sexuelles avec une personne handicapée. Je pense que d'un point de vue d'amitié, il n'y a pas de souci, que si tu sais mettre à l'aise, etc., il n'y a pas de souci. Mais que d'un point de vue des sentiments, des relations sexuelles, il y a encore une barrière trop importante. Et que même si tu sais mettre à l'aise, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps parce que les gens ont peur de l'handicap et ne se voient pas en couple avec une personne handicapée.
Mais pourquoi tu penses qu'on ne se projette pas avec une personne handicapée ? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes avec des stéréotypes validistes sur un couple valide, personne handicapée ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Est-ce que c'est normal qu'il y ait tous ces freins d'avoir peur ?
Non, c'est pas normal, mais oui, il y a des freins qui sont réels. Après, moi, je pense que tu sois en couple avec une personne valide ou handicapée, ça change pas grand chose. Par que tu vas pas faire un footing le matin à deux. Mais en vrai, pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, oui, il y a des adaptations à faire parce que forcément, la personne handicapée va pas aller décrocher les toiles d'araignée qui sont en haut sur un plafond. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qui permettent de compenser ton handicap aujourd'hui. D'un point de vue de l'aide humaine, ou même d'un point de vue de ton fauteuil, d'un lit électrique, etc., qui font que, bah non, que tu sois avec un valide ou avec un handicapé, ça change rien, selon moi.
Donc ça, c'est un peu par rapport au quotidien et dans la vie sexuelle ?
Non, c'est pas. Enfin, en fait, oui, c'est pas la même chose, mais en fait, c'est logique parce que les gens savent que je vais pas me lever, en fait. Donc forcément, ils déduisent d'eux-mêmes, je pense, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Oui, je vais pas me lever, je vais pas faire des trucs debout, quoi, bah non. Mais oui, il y a une adaptation qui est nécessaire. Après, non, c'est pas forcément moins bien. Je pense que... Enfin, moi, j'ai jamais dit que c'était moins bien qu'invalide.
Et est-ce que tu penses que, comme c'est des formes de relations qui sont différentes, ça peut permettre peut-être plus de communication, de développer des relations plus saines ?
Non, je pense pas. Enfin, moi, j'ai déjà eu des relations compliquées alors que je suis en fauteuil. Parce qu'en fait, ma dernière relation amoureuse, ça a duré 2 ans. Ça s'est terminé comme des couples invalides, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas trop de différence. C'est pas forcément plus sain, c'est pas forcément... pour moi, c'est la même chose. Hein. Tu peux t'embrouiller comme tu t'embrouilles avec des valides. Ça peut mal se terminer.
Donc t'as été à la fois... T'as été en couple ou eu des relations à la fois avec des personnes valides et des personnes handicapées.
Ouais.
Okay.
C'est marrant, les deux. Non, ça change pas grand-chose. En vrai, c'est... Faut essayer.
Est-ce que tu sors souvent en boîte de nuit ?
Ça m'arrive, récemment je suis pas sorti, mais sinon j'aime bien sortir, je fréquente un club dont je tairai le nom parce que c'est un club qui est trop bien, donc je veux pas qu'on me le vole, je suis le seul handicapé à y aller aussi donc ça me fait kiffer, et il y a toujours des stars qui sont là-bas donc c'est très marrant, des joueurs du PSG que je vois souvent là-bas, et non franchement c'est une boîte qui est vachement sympa, et à chaque fois quand t'es handicapé, de ce qu'on m'a dit et de ce que moi je vois, en boîte t'es un peu, t'es l'attraction de la soirée. Et quand t'as un peu d'alcool dans le sang, c'est marrant à vivre. Et du coup, il y a des gens qui t'offrent des verres, des bouteilles, machin, tu t'amuses, tu rencontres des gens. Tu rencontres beaucoup de gens même, c'est très agréable. Donc pour faire la transition avec ça, c'est qu'il y a 3 semaines, j'étais donc à mon lieu de stage, à la cantine, et il y a une fille qui crie mon prénom dans la cantine. Elle me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» mais d'un ton très énervé, comme si je lui devais 20 000 euros en fait. Du coup, j'ai pas trop compris, j'ai pris peur. Du coup, puisque je suis un homme viril et très sûr de moi, j'ai fait « Excuse-moi, je dois y aller, j'ai pas le temps. » Et en fait, cette fille-là, ça m'a trotté dans la tête pendant genre 2 semaines. J'ai pas compris c'était qui cette fille pour m'appeler, pour me parler de cette manière-là. Et elle m'a envoyé un message 2 semaines après pour me dire « Coucou, c'est moi qui t'ai parlé chez Havas, machin, à la cantine. » Et en fait, c'est une fille que j'avais rencontrée en boîte de nuit. Je me rappelais vraiment pas d'elle. Et elle se rappelait de moi parce que forcément, un handicapé dans cette boîte-là en particulier, il y en a pas souvent. Donc apparemment, elle se rappelait de moi. Moi, je me rappelais vraiment pas d'elle. Du coup, c'était un peu gênant.
Ça arrive souvent en fait que... Les gens se rappellent de la personne handicapée parce qu'elle est facilement reconnaissable. Ouais. Et que toi, tu sois en mode « Mais t'es qui, en fait ?»
Tellement.
« Je me souviens pas. »
Mais oui.
Parfois, j'ose pas, moi, dire que je me souviens pas.
Moi aussi. Les gens, ils pensent connaître ta vie, même à travers les médias, etc., parce qu'ils écoutent tes interviews. Et en fait, moi, je les connais pas, donc c'est très gênant. Ils connaissent ma vie, moi, je les connais pas. C'est très gênant.
Parce que toi, tu partages ta vie à travers les médias, en dehors de cette interview, évidemment.
Alors, je partage ce que je souhaite partager, parce que je partage pas toute ma vie. Parce que j'aime bien contrôler ma communication, ce qui sort autour de moi. Donc je partage ce que je veux partager, mais ouais, j'aime bien partager. Ouais. Sur mon TikTok, soit je partage des vidéos de moi avec des personnalités, ou soit je partage des vidéos de drôles sur le handicap, etc. Je montre un peu que le côté positif, et je me force de montrer une image positive du handicap pour le dédramatiser, parce que je sais que j'ai beaucoup de valides qui me suivent. Et oui, donc je me force de montrer une image positive du handicap, quitte à parfois un peu l'exagérer. Mais c'est une bonne chose, je pense.
Parce que les personnes handicapées sont souvent misérabilisées.
C'est ça.
C'est important de montrer autre chose.
Et on peut récolter de l'argent pour une cause noble sans faire pleurer les gens.
Ça me fait penser à quelque chose.
Ouais, à quoi ?
Le Téléthon.
Yes.
C'était il y a 3 jours.
Ouais.
Je crois que tu y as participé.
Alors, moi, je participe au Téléthon qui est digital, donc qui se fait sur Twitch et YouTube. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, et heureusement d'ailleurs, parce que ce qui se passe à la télé, j'y vais pas, et j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a une image qui est renvoyée du handicap qui ne me plaît pas, et donc j'y suis allé quand j'avais 13 ans, quand j'étais au collège, sur le plateau, pas pour parler mais juste en tant que spectateur. À l'époque j'avais kiffé, j'étais petit, je comprenais rien, et maintenant avec du recul, non, j'aime pas l'image qui est renvoyée sur le plateau, notamment par notre amie Sophie Davant, voilà, que je peux pas saquer. Et voilà, du coup, dans ce qu'on a fait en ligne, nous c'était très bien, c'était en direct de Roland-Garros. On n'a jamais chialé, on n'a jamais parlé de handicap en mode oh, « qu'est-ce que c'est triste, il a un handicap, machin ». Non, j'ai raconté ma vie exactement de la même manière que je le fais maintenant. J'ai parlé de la sous-représentation des handicapés dans les médias en direct sur le Twitch de France Télé, devant 5000 personnes. J'ai répondu à des questions du chat. J'ai parlé de mon handicap aussi de manière tout à fait normale, du traitement que je faisais, etc., de manière complètement transparente, sans faire chialer. On a récolté plus de 500 000 euros en 5 jours. Et donc, sans faire chialer, on a réussi à récolter beaucoup d'argent, à toucher des gens. Toucher des gens en termes de ciblage, hein, pas en termes d'émotion. Et c'était très bien. On n'a pas fait chialer, donc c'était très bien.
Donc il y a quand même une différence entre le Téléthon version digitale et ce qui se passe à la télévision.
Yes, je sais où je me mets.
Ok, c'est intéressant parce que On a tendance peut-être à tout mettre dans le même panier alors qu'il y a des nuances.
Alors que pour moi, la cause en elle-même du Téléthon, le fait de trouver des médicaments pour des maladies rares, génétiques, etc., c'est quelque chose de bien, je pense. Parce que si le Téléthon ne le fait pas, à part aux USA, personne ne le fait, en fait. Donc c'est, la cause en elle-même, je pense, elle est noble. Donc c'est bien.
Bon, en tout cas, ça nous permet de faire la passerelle avec les médias au sens large. Donc tu ne te sens pas spécialement représenté dans le Téléthon à la télé, comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'il y a des formats dans lesquels tu te sens représenté, comme des films, des séries, ou alors des artistes, je sais pas, des chanteurs, des personnalités publiques
Déjà sur Netflix, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, de montrer des handicapés dans des séries lambda. Netflix a réussi à faire en 4 ans ce que la télé n'a jamais su faire, en termes de fiction. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, forcément, il y a toujours des trucs à redire sur Netflix, parce que Netflix, ils ont une sur-sexualisation, enfin, il y a beaucoup de choses à redire, mais enfin bref. Mais globalement, pour le handicap, ça reste bien. Après, dans les médias, non, il n'y a rien qui est fait. Dans la télévision, il n'y a rien qui est fait. Pour donner un chiffre, le handicap touche 12 millions de personnes en France. Et à la télé, le handicap est représenté... Enfin, il n'y a que 0,9% des personnes perçues comme handicapées qui sont à la télé. Donc c'est une catastrophe, c'est le néant. Parce que je disais la même chose il y a 3 jours sur France Télé. Et donc oui, là, c'est à l'ARCOM de se réveiller. C'est à l'ARCOM d'imposer des choses. Parce que le handicap n'est quasiment pas représenté dans les médias.
Et... dans la fiction, quand ces personnes sont représentées, qu'est-ce que tu penses de l'image qui est renvoyée?
C'est principalement des valides qui jouent les rôles des handicapés. Mais, et oui, donc, sur les médias, il n'y a rien qui est fait. Dans les fictions, pas ouf. Il y a Intouchable il y a 10 ans, mais bon, c'était un peu des stéréotypes. Hein. Tu touches les oreilles et voilà, donc c'est fin bref. Et ouais, non, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a aucune star handicapée. Il n'y a aucune représentation. Il n'y a aucun modèle pour les jeunes handicapés dans les médias. Et moi, quand j'ai commencé à apparaître dans les médias il y a 3-4 ans, et que j'ai compris que ce que je faisais déjà avait un impact sur les valides, mais aussi avait un impact sur d'autres personnes handicapées qui me disaient « moi, je vais être comme toi plus tard », etc. Mais en fait, au début, tu ne comprends pas trop, ça te fait un peu peur, tu dis « ah ouais, j'ai des responsabilités », mais en fait, tu dis que c'est une bonne chose, parce que moi, quand j'étais petit, j'aurais aimé avoir un mec à la télé qui avec Mbappé, avec machin, et qui se la raconte à la télé, j'aurais aimé avoir ça. Et aujourd'hui, c'est pas le fin. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus le cas. Donc, si je peux aider d'autres personnes handicapées, des petits jeunes, avec plaisir. Pour faire un lien avec ce qu'on s'était dit tout à l'heure, dans pas très longtemps, il y a une série qui sort qui s'appelle Toulouse-Lautrec. Donc, il a été tourné au lycée, au collège où j'étais.
Que dire ? Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire autour de cet établissement-là. Pour l'avoir fréquenté 7 ans, je crois, il y avait vraiment mieux à faire. Mais bon, ils ont choisi un angle pour vulgariser un petit peu, on va dire, ce lycée-là, pour le rendre facilement compréhensible par les valides, on va dire. Mais oui, la série plaît aux valides qui ne connaissent pas le handicap. Mais j'ai parlé, par exemple, avec 2-3 filles avec qui j'étais au lycée, dans ce lycée-là, qui sont valides, et qui, elles, n'ont pas du tout aimé l'image qui était renvoyée de ce lycée-là, qui ont vraiment trouvé que ce n'était pas la bonne image et que ce n'était pas du tout la réalité de ce qu'elles, valides, avaient vécu avec d'autres élèves handicapés. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Mais bon, ça plaît à la cible TF1, je pense, hein, puisqu'ils ont fait des audiences correctes. C'est rien d'exceptionnel, mais ce n'est pas un échec. Donc voilà. Et il y a une saison 2 qui va être tournée prochainement. Donc on verra ce qu'ils font pour la saison 2. Mais non, il y avait vraiment mieux à faire autour de ça.
Est-ce que tu pourrais me définir avec tes mots le validisme?
Je dirais que c'est subir des discriminations dues à son handicap. Et voilà, c'est comme... on pourrait parler d'homophobie pour les personnes homosexuelles. Moi, c'est la même chose, mais version handicapée.
Est-ce qu'à ton échelle, tu penses que tu subis du validisme?
Je le subis, mais pas de personne. Enfin, en fait, je le subis, c'est la société qui me le fait subir. C'est la société, de manière générale, qui, parce qu'un endroit n'est pas adapté, qui va me faire subir mon handicap. Parce que quand une amie m'invite à un concert, il y a 10 000 questions à poser au gars qui gère la salle pour savoir si c'est adapté ou pas. Je me suis embrouillé avec des gens il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je les ai défoncés.
Tu veux nous raconter ?
J'étais dans un concert et en fait les places PMR étaient littéralement tout en haut de la salle. Tu ne voyais rien. Tu étais derrière un poteau. Donc j'ai dit au mec de sécu, tu peux m'appeler ton chef en fait, parce que moi je ne vais pas rester là. Il me fait non, mais c'est moi le chef. Je suis ok. Du coup je te dis, je ne vais pas rester là. Il fait assis pour la sécurité, c'est trop compliqué d'aller dans la fosse. Je fais écoute-moi bien, je vais dans la fosse, et s'il y a un problème, j'en ai rien à faire. Il me fait ok. Il fait tu prends tes responsabilités, ok, je fais ok, vas-y. Du coup, j'arrive en bas, et tu sais, entre la fosse et la scène, t'as un espace où il y a des photographes. Et en gros, moi, je voulais mettre là, pour du coup, pas être dans la fosse et pas mourir. Et il m'a dit non, t'as choisi d'être en bas, tu restes en bas. Je suis ok, d'accord. Et si je me mets, si j'arrive à m'incruster dans le truc et tout ça, on fait comment? Il fait, bah je te sors. Je suis ok, vas-y, on verra. Je vais dans l'endroit. Je lui ai dit, sors-moi maintenant. Bah, il pouvait pas me sortir, il est pas porté mon fauteuil qui fait 200 kilos. Et tout à l'heure, donc pour moi, le validisme, je peux le subir, mais pas d'une personne en particulier, c'est la société qui va me faire subir ça.
Avant de couper, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes validistes? Et je ne dis pas valides, je dis donc les personnes qui, dû à ce système, te font subir des discriminations et qui souhaiteraient en fait se déconstruire.
Passer une journée avec moi en fauteuil roulant, vous allez comprendre. Le regard des gens, que rien n'est adapté, surtout à Paris. Et ouais, je pense que la meilleure des sensibilisations, c'est de passer une journée en fauteuil. À un moment, il le faisait avec des stars, il y a longtemps sur YouTube, c'était marrant. Mais je pense que ouais, pour s'en rendre compte, il faut vraiment être confronté au truc. Et que quand tu n'es pas confronté, tu t'en rends pas compte et tu n'en sais rien. Mais une fois que tu es confronté, la réalité, bam, dans ta tête.
Je suis Kiara Khan. Compassion est un podcast que je réalise. Il est diffusé sur toutes vos plateformes d'écoute. Merci à Iris Gastelu pour la production éditoriale, à Omer Abdrabo pour la musique et le mixage, et à Pauline Lenours pour l'illustration. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de Compassion sur le compte Instagram du même nom. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.